Vous écoutez, on lit pour vous.
Au Canada, les recettes autochtones mises au goût du jour. Un texte de Raphaël Marucic, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO. Des projets menés par les communautés des Premières Nations cherchent à ressusciter des pratiques et des recettes anciennes, respectueuses de la dimension sacrée de la nourriture et plus durables. C'est notamment le cas chez les Mi'kmaq de Nouvelle-Écosse. C'est en hiver que je me sens le plus vivant, sourit Joeph en plongeant ses mains nues dans l'eau glacée du lac Brador. Il fait pourtant moins 15 degrés Celsius en ce jour de février 2025 sur l'île de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, dans l'est du Canada. Joeph fait partie des Mi'kmaq, un peuple autochtone des provinces atlantiques du Canada. Ce jour-là, il est venu attraper un castor pour sa sœur. Elle prépare un grand festin de milieu d'hiver, explique-t-il. Joeph chasse tous les jours. Plus qu'un passe-temps, la collecte d'aliments dans la nature, oies, cerfs, élans, anguilles, saumons, baies, plantes, et le mode de vie traditionnel des populations autochtones. Pour nous, la nourriture est sacrée. Elle est au cœur de notre culture, explique Joeph. Elle constitue un vecteur de spiritualité et de célébration. Une fois que vous avez attrapé l'animal, vous remerciez l'esprit de la terre. Nous sommes conscients du sacrifice. C'est pourquoi on utilise autant que possible la créature. La viande est mangée, la fourrure est utilisée pour les vêtements, etc. En effet, ce système alimentaire traditionnel assure la sécurité alimentaire non seulement de Joeph et de sa famille, mais aussi des autres membres de sa communauté. Je n'aime pas faire de réserve, alors je garde assez de viande pour un repas et je donne le reste, poursuit-il. Joeph a appris, de son père, les techniques de collecte dans la nature. Son fils de 6 ans joue dans la neige, intégrant les connaissances et la langue de son père. Il l'aide parfois à poser un piège, mais Joeph déplore que ses savoirs se perdent au sein de sa communauté. Le taux de pauvreté des Autochtones est supérieur à celui de la moyenne du pays, principalement parce que nous ne savons plus comment utiliser la terre. Des projets menés au sein des communautés voient aujourd'hui le jour à l'échelle du pays pour inverser cette tendance. Retour aux sources. Le terme « souveraineté alimentaire » a été inventé en 1996 par le mouvement international La Via Campesina, lequel défend l'agriculture paysanne et le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement pertinente, produite selon des méthodes écologiques et durables, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles. Au Canada, depuis la colonisation, les connaissances et les langues ancestrales se sont largement perdues. Bamidele Adekunle, chercheur à l'Université de Guelph, en Ontario, a étudié l'accès des populations autochtones urbaines à leur nourriture d'origine. Il identifie plusieurs autres facteurs responsables de la disparition de la souveraineté alimentaire des Autochtones. L'immigration, le capitalisme et le manque de confiance des Autochtones dans la valeur de leurs compétences. La souveraineté alimentaire est liée à la santé, au rituel, au sentiment d'appartenance et au sens de la communauté. Lorsque l'alimentation est compromise, on perd tout cela, explique-t-il. Faute de nourriture traditionnelle, les populations autochtones se tournent vers les aliments industriels. L'un des moyens d'y parvenir dans les villes serait d'aider les communautés à cultiver des aliments autochtones dans leurs propres parcelles ou de refamiliariser les jeunes générations avec les pratiques anciennes. Le gardien des semences Mohawk. Les communautés des Premières Nations sont réputés pour leur savoir-faire dans l'association des plantes qu'ils cultivent de manière combinée, ce qui donne de meilleurs rendements que si elles étaient cultivées séparément. Par exemple, le maïs peut être associé aux haricots grimpants et à la courge. Le haricot peut grimper autour de l'épi, tandis que la courge recouvre le sol et conserve au sol son humidité tout en empêchant la pousse des mauvaises herbes. Les jardins traditionnels font partie de la culture autochtone, explique le chef Stephen Silver Bear McCumber, gardien des semences de la nation Mohawk, qui produit des semences depuis son enfance avec ses grands-parents dans leur jardin. Il continue d'acquérir et de sélectionner des semences, de faire des échanges avec d'autres tribus et de remettre aux familles des variétés traditionnelles de haricots, de courges, de maïs, de tournesol et de tabac à cultiver. Selon Silver Bear, l'agriculture est également associée au rituel. Les graines sont vivantes, tout est lié dans l'univers. Les cérémonies de plantation apporte la chance, et nous plantons, récoltons et même préparons les conserves en fonction des phases de la lune. Manger la bonne nourriture, c'est survivre, déclare l'aînée Anita Joseph, qui a assuré la coordination avec la communauté de la Première Nation Elsipoktok pour le livre de cuisine « Mijilet's Heat ». Micmac Recipes from Siknik-Tuk. Grâce à cette initiative, la recette de caviar Micmac qu'Anita préparait avec sa tante et la langue qui lui est associée ne se perdront jamais. Appelée Nijimk, cette recette à base d'œufs de saumon est servie fraîche avec des crackers. Elle peut être accompagnée de câpre, d'un brin d'aneth et d'une tranche de citron confit. C'est un exemple de la façon de faire des Micmacs, qui consiste à manger toutes les parties de l'animal pour ne rien gaspiller. Rédigé par Margaret Augustine et le docteur Laurent Beck, le livre rassemble 30 recettes de ce territoire Micmac du Nouveau-Brunswick, parmi lesquelles le Konosuwe, un ragoût de viande et de pommes de terre, ou encore le Four Cents, un pain frit proche de la crêpe. En amont du projet, elles ont obtenu la permission des aînés et se sont assurées que la propriété intellectuelle du livre resterait dans la communauté, de même que les droits d'auteur. La cuisine est une célébration de la résilience. Ce livre n'est pas une adaptation de la nourriture Micmac. Nous avons écrit les recettes telles qu'elles sont encore préparées dans la communauté, explique Margaret Augustine. Initiative communautaire. Chelsea Purdy, diététicienne et membre de la Première Nation Wazokopak, travaille avec l'Union des Micmacs de Nouvelle-Écosse, conseil tribal bien implanté qui collabore par exemple avec la Confédération des Micmacs du continent et le parc national Kijimkujik. L'année dernière, nous avons organisé un Mayomi rassemblement dans le parc. Nous avons campé et organisé des activités liées à l'alimentation, avec la participation de cueilleurs, de cuisiniers, de producteurs de denrées alimentaires et de membres de la communauté Micmac, explique Chelsea. Cette année, ils espèrent piloter leur propre service de restauration lors de l'événement. Nous identifions les plantes que nous voulons récolter au printemps et en été et que nous pourrons incorporer dans le menu que nous proposerons à l'automne, ajoute Chelsea. Pour garantir que les valeurs Micmac présideront bien à l'identification et à la récolte des plantes, le syndicat s'appuie sur les Nujikelo Tokatik Earth Keepers, gardiens de la terre, qui font partie d'un vaste mouvement de conservation et de protection des terres sous l'égide des populations autochtones dans l'ensemble du Canada. À 450 km au nord-est, Joef le Trappeur est aussi gardien de la terre. Employé par l'Institut des ressources naturelles, Unamaki, pour transmettre ses connaissances approfondies de la terre et contribuer à la recherche scientifique qui sous-tend la protection des terres, comme le suivi des populations animales. Ainsi, il a été décidé de ne pas autoriser la chasse à l'élan au cours de l'hiver dernier, la population étant jugée trop faible. Considérer la souveraineté alimentaire dans l'optique autochtone, c'est placer la terre au centre, changer notre état d'esprit pour soumettre nos décisions à son échelle temporelle plutôt qu'à celle de l'homme. C'est privilégier la protection de la communauté, le partage et les réseaux alimentaires locaux, essentiels dans un monde de coûts alimentaires en hausse et de menaces environnementales, conclut Chelsea Purdy. Joeff, en parfaite harmonie avec l'environnement sauvage, en est un exemple vivant. Nous devons constamment nous adapter. C'était « Au Canada, les recettes autochtones mises au goût du jour », un texte de Raphaël Marucic, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO.
Entrevue « Comment les bactériophages m'ont sauvé la vie », un texte d'Annie Labrec, paru le 3 avril 2025 dans le magazine Québec Science. La vie du chercheur américain Thomas Patterson a été chamboulée par une infection fulgurante. Il nous raconte comment les bactériophages, des virus mangeurs de bactéries, l'ont sauvé. En novembre 2015, Thomas Patterson contracte en Égypte une infection à Acinetobacter baumannii, une bactérie multirésistante qui envahit progressivement ses organes et le plonge dans le coma. Sa conjointe, Stephanie Stratdy, épidémiologiste, le sauve grâce aux bactériophages, des virus ciblant les bactéries. Il publie « The Perfect Predator » en 2019 pour sensibiliser le public à cette thérapie. Entrevue avec Thomas Patterson. Québec Science. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces longs mois de maladie? Thomas Patterson. Le premier choc a été de tomber malade dans un pays étranger, avec une maîtrise limitée de l'anglais et un personnel soignant qui ne parlait pas ma langue. Puis, il y a eu le transfert en Allemagne et l'évacuation vers San Diego. Peu de temps après, je plongeais dans le coma. Dans le livre, mes hallucinations occupent une place importante au début des chapitres. Stéphanie et moi avons découvert que nos expériences étaient très différentes, même si nous étions au même endroit. Québec Science. Vous souvenez-vous d'avoir serré la main de votre femme lorsqu'elle vous a demandé si vous acceptiez la thérapie par les bactériophages? Thomas Patterson. Oui, je m'en souviens. Dans mon esprit, j'étais persuadée d'être un serpent filmé pour un documentaire sur la mort. Cette illusion était alimentée par la bronchoscopie, un tube inséré dans ma gorge, qui ressemblait à un serpent. Et quand Stéphanie m'a demandé si je voulais vivre ou si je voulais lâcher prise, elle a dit qu'elle comprenait mon combat et que c'était à moi de décider. Je voulais lui serrer la main, mais en tant que serpent, je n'avais pas de main. Il m'a fallu du temps pour comprendre comment réagir. Finalement, j'ai imaginé que j'enroulais mon corps de serpent autour de sa main. Et apparemment, je l'ai serré très fort. Québec Science. Si une nouvelle infection survenait, accepteriez-vous de recevoir une autre thérapie par les bactériophages? Thomas Patterson. Absolument. Des millions de phages circulent naturellement dans notre corps chaque jour. En un sens, nous bénéficions déjà de cette thérapie en permanence. Les bactériophages sont présents tout autour de nous et même en nous, dans nos intestins, par exemple. À mesure que la thérapie par les phages deviendra plus courante, que nous développerons des banques de phages et que nous comprendrons mieux les dosages et les éventuelles toxicités pour différents types de phages, cela fonctionnera à la manière d'un traitement antibiotique. Les médecins identifieront rapidement les bactéries résistantes et utiliseront des phages adaptés pour les traiter. Je n'ai ressenti aucun effet secondaire avec les doses de bactériophages que j'ai reçues, contrairement aux antibiotiques, qui peuvent provoquer des nausées ou d'autres effets indésirables. Québec Science. Qu'espérez-vous que l'on retienne de votre histoire? Thomas Paterson. J'étais, et je suis toujours, un chercheur sur le VIH-Sida. Je sais à quel point ce virus est terrible, mais les traitements s'améliorent. Nous voyons souvent les virus comme des ennemis. Nous ne réalisons pas qu'il y a aussi de bons virus, et les phages en sont la preuve. En cette ère de superbactéries, la thérapie par les phages sera essentielle pour traiter des infections incurables avec les antibiotiques traditionnels. Il est important de comprendre qu'être hospitalisé pendant 9 mois n'est qu'une partie du combat. Le rétablissement prend 5 fois plus de temps que la durée d'hospitalisation. À mon réveil, j'ai dû réapprendre à parler, à avaler et à marcher. Mes muscles étaient totalement atrophiés. La longue période de rétablissement a été vraiment difficile. L'hospitalisation prolongée, les hauts et les bas, la nécessité d'être branché au respirateur en étant incapable de parler. Il ne faut pas non plus oublier les proches et la personne qui s'occupe de vous. Cela demande énormément de sacrifices. Ayant également étudié le rôle des aidants naturels auprès des patients atteints d'Alzheimer, je sais à quel point cette charge affecte le corps et l'esprit. Il est essentiel d'en être conscient et de se préparer à y faire face. Québec Science. Et aujourd'hui, comment allez-vous? Thomas Paterson. Ma santé n'est pas parfaite, mais je vais bien. Je fais ma marche quotidienne d'une heure, environ 5 kilomètres. Nous avons beaucoup voyagé dans 7 pays depuis ma maladie. Si les phages avaient été disponibles dès le début de ma maladie, je n'aurais peut-être passé qu'une ou 2 semaines à l'hôpital au lieu de 9 mois. L'infection prolongée a laissé des séquelles. Je suis maintenant diabétique, car l'infection a endommagé une partie de mon pancréas et j'ai des problèmes digestifs. Je ne veux pas me plaindre. Être encore en vie est une chance inestimable. Quelques conseils de Thomas Paterson pour les personnes qui se réveillent d'un coma et leurs proches. Vivez l'instant présent. Pensez à toute la journée peut devenir accablant, rappelle-t-il. Concentrez-vous plutôt sur chaque petit progrès. Soyez attentif à vos paroles. Même inconsciente, une personne dans le coma pourrait entendre et interpréter ce qui se dit autour d'elle. Certaines conversations influençaient directement mes hallucinations, confie Thomas Paterson. Stimulez son esprit. Parlez-lui. Racontez des histoires. Partager des souvenirs. L'une de mes filles me parlait d'oiseaux. L'autre me jouait de la musique. Et Stéphanie me parlait. C'était « Entrevue, comment Les bactériophages m'ont sauvé la vie. » Un texte d'Annie Labrec, paru le 3 avril 2025 dans le magazine Québec Science.
Un enfant québécois pourra avoir plus de deux parents. Un texte de Stéphanie Marin, paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir. Une autre frontière a été franchie vendredi le 25 avril 2025 en droit familial au Québec. La Cour supérieure vient de reconnaître la possibilité pour un enfant d'avoir plus de deux parents aux yeux de la loi. Jusqu'à maintenant, seuls les noms de deux parents pouvaient être inscrits sur l'acte de naissance d'un bébé, avec toutes les obligations légales et les droits qui en découlent. Cette limite a été jugée discriminatoire et contraire à la Charte canadienne des droits et libertés par un jugement qui invalide pas moins de 44 articles du Code civil du Québec. Le modèle familial sur lequel notre droit de la filiation était construit consistait en un couple marié, formé de personnes de sexe opposé, qui étaient les parents biologiques des enfants issus de leur mariage, rappelle le juge Andrés Garin dans une décision de 105 pages qui vient bouleverser le statu quo sur le plan de la loi, doit-on préciser, car bien des Québécois vivent au quotidien dans des familles dites non conventionnelles. Sur le plan juridique, un enfant peut-il avoir plus de deux parents? Demande le magistrat en qualifiant la question de simple et de fort complexe à la fois. Traditionnellement, la réponse était non. C'est d'ailleurs le mur auquel s'est heurté le trouble, contraction des mots trio et couple, formé de Rose, Marc et Sophie, à noter qu'il ne s'agit pas de leur véritable nom, puisque la loi interdit de donner l'identité des parties d'un litige en droit familial. Ces derniers ont porté cette cause à bout de bras avec leurs avocats, Maître Marc-André Landry et Maître Bernard Amiot, qui ont œuvré pro bono dans cette affaire. Deux autres familles ont ensuite greffé leur cause à la leur. Le juge Garin souligne que, depuis 1980, le droit québécois a évolué pour reconnaître la validité de divers modèles familiaux. Pourtant, un aspect du modèle familial traditionnel, l'idée qu'un enfant ne peut avoir plus de deux parents, demeure ancré, semble-t-il, dans le droit de la filiation, écrit-il. L'histoire d'une famille. Au début de leur histoire, Rose s'est mariée avec Marc, qu'elle fréquentait depuis une dizaine d'années. Trois enfants sont nés de leur union. Puis, Rose a fait la rencontre de Sophie et a développé une relation amoureuse avec elle. Elle l'a présentée à Marc et, depuis, ils forment un trio amoureux exclusif. Sophie a exprimé le désir d'avoir un enfant. Le projet est devenu celui des trois adultes. Lorsque Simon est né en 2022, ils ont choisi d'inscrire sur le certificat de naissance qui ne permet que deux noms, ceux de Sophie et de Rose. L'état civil a effacé celui de Rose car le père biologique avait été honnête et avait signalé dès le début son intention d'être reconnu père. Bref, cet enfant qui peut se targuer d'avoir trois parents n'en avait finalement qu'un seul aux yeux de la loi. Les embûches peuvent être nombreuses pour le parent non officiellement reconnu. Il ne s'agit pas que de voir son nom sur un bout de papier, mais bien d'avoir des droits, comme la garde de son enfant en cas de rupture et, pour la progéniture, la possibilité de lui réclamer un soutien financier. On peut aussi penser au parent qui peut être empêché de consentir aux soins de son enfant blessé ou de le faire bénéficier de son assurance dentaire, entre autres exemples. En somme, l'absence d'un lien de filiation occasionne un désavantage socio-juridique tant pour le parent non reconnu que pour son enfant. Note le magistrat, qui renchérit, il cause aussi un préjudice psychologique et identitaire aux membres des familles pluriparentales. Une reconnaissance juridique. Les trois parents, en pleurait de joie, vendredi, a déclaré Maître Landry, lui-même très ému du résultat. Sophie a dit à ses procureurs qu'elle ne pouvait imaginer de jugement aussi représentatif de leur famille, a ajouté Maître Amiot. Cette reconnaissance est aussi importante pour ces familles québécoises, comme le signale le juge Garin. En fin d'analyse, la limite de deux liens de filiation transmet aux familles pluriparentales et à la société en général le message que seules les familles dites « normales », avec un maximum de deux parents, représentent des structures familiales valides et dignes de reconnaissance juridique. Ce message renforce et perpétue le désavantage subi par ceux et celles qui évoluent dans un modèle familial non traditionnel. Il a jugé que les articles du Code civil qui conçoivent les familles comme n'ayant que deux parents portent atteinte au droit à l'égalité. Il estime que celles qui sont pluriparentales sont discriminées en fonction de leur statut familial, dans le sens de l'appartenance à un modèle familial particulier. Ce motif de discrimination n'est pas inscrit dans la Charte des droits et libertés, mais il a été considéré comme un « motif analogue » et le fait que le juge l'ait retenu est « marquant », relève Maître Landry. Avec ce jugement, tout le temple du droit familial est secoué, estime l'avocat. Maître Amiot croit pour sa part que cette décision est presque aussi importante que celle qui a reconnu le mariage pour tous au début des années 2000. Le juge Garin a ainsi déclaré inopérant 44 articles du Code civil, mais il a suspendu leur invalidité pour 12 mois afin de donner le temps aux législateurs de corriger le tir et d'en arriver avec une version qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés. Il a aussi ordonné au directeur de l'État civil d'ajouter le nom de Marc au certificat de naissance de Simon. Le gouvernement du Québec avait défendu les dispositions attaquées devant la Cour supérieure. Vendredi après-midi, le cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a fait savoir qu'il désirait prendre le temps d'analyser le jugement avant de le commenter. Il peut aussi le porter en appel. C'était « Un enfant québécois pourra avoir plus de deux parents », un texte de Stéphanie Marin, paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir.